bienvenue à tous sur la radio du lycée horticole de Blois.
On va passer à un sujet de société qui a été préparé par les élèves aussi. Bonjour les filles, allez-y, asseyez-vous, mettez-vous en place autour de la table. Vous avez vu, il fait beau ici, hein, il fait chaud, hein. On va pouvoir se mettre à l'aise un petit peu. Je vous propose, vous nous expliquer un petit peu la raison de votre venue aujourd'hui. Vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Alors, on va vous parler de la maltraitance animale.
Un sujet de société important, je suppose ?
Oui.
Alors, pourquoi vous aviez eu envie de parler de ce sujet-là ?
Parce que ça nous paraît important, quand on voit le nombre d'abandons qu'il y a, et la maltraitance.
On a oublié de faire une chose importante, j'ai oublié de vous demander de vous présenter. Qui veut se présenter, du coup ?
Alors, moi, c'est Manon et je suis en première TCVA.
Ouais. Moi, c'est Marine et je suis en première TCVA.
Et moi, c'est Diane et je suis en première TCVA aussi.
Les animaux, ça vous intéresse parce que vous êtes aussi dans cette filière-là. On écoute un petit peu votre présentation.
Pour commencer, il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitements et d'abandon. Les propriétaires ont pour obligation d'alimenter et de soigner leur animal.
Diane, parlons-nous un peu de l'alimentation et des soins que doivent recevoir les animaux.
Alors l'animal doit avoir une alimentation équilibrée et en quantité suffisante, ainsi que de l'eau fraîche à volonté pour le maintenir en bonne santé. En cas de blessure ou de maladie, le propriétaire doit lui assurer les soins nécessaires à son bon rétablissement. En ce qui concerne les abris et les attaches, comment ça se passe, Marine ?
Tout animal de compagnie ne doit pas être enfermé dans un local sans aération, sans lumière et insuffisamment chauffé. En ce qui concerne les attaches, un animal tenu attaché doit porter un collier et une chaîne proportionnée à sa taille et à sa force, qui ne doit pas être trop lourd et qui n'empêche pas ses mouvements. La chaîne doit être d'une longueur minimale de 2,50 m.
Diane, qu'as-tu à nous dire sur les transports ?
Aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre de voiture ne disposant pas d'un système d'aération. Et si l'animal reste dans un véhicule à l'arrêt, le véhicule doit être stationné à l'ombre et toutes les dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air. Un chien doit être dans une cage de transport et non sur les genoux ou sur les sièges durant le trajet.
Et en termes de nouveau-né, comment ça se passe ?
Lorsqu'un propriétaire fait naître des petits, il doit en assumer les responsabilités, donc ne pas les tuer. Pour éviter cela, faire stériliser son animal. Alors Manon, passons maintenant aux peines encourues.
Le propriétaire d'un animal qui ne respecte pas ses obligations, comme absence de soins, des conditions de détention inadaptées ou bien de privation de nourriture, d'eau, etc., est puni de 750 euros d'amende.
Et j'ajoute qu'un propriétaire qui abandonne son animal et qui exerce publiquement ou non des actes de cruauté ou de nature sexuelle peut être puni de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une association de protection animale qui, elle, pourra en disposer librement. Je vais maintenant laisser la parole à Manon qui va vous dire ce qui se passe réellement autour de nous.
Alors en France, 11 animaux domestiques sont abandonnés chaque heure, soit environ 100 000 abandons par an, dont 60 000 l'été, ce qui est énorme. Pourtant, les gens continuent de favoriser la naissance de portée. Les animaux continuent de naître sans aucun contrôle ni régulation. 65 milliards d'animaux sont tués pour notre alimentation. 90 animaux sont utilisés pour des expériences de produits cosmétiques alors que cette pratique est interdite. 1200 animaux parcourent le territoire emprisonné dans des cirques et 250 000 animaux sont euthanasiés pour raisons financières.
Et donc ça fait froid dans le dos tous ces chiffres-là. Là, hein. Vous nous avez plombé le moral pour l'après-midi, je crois. Hein.
C'est ça.
Vénitia, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant là ?
Je voulais savoir si vous aviez réfléchi sur comment sensibiliser les gens sur l'abandon des animaux.
Quel message on pourrait faire passer pour que les gens évitent d'abandonner leurs animaux, quoi ?
Bah déjà, qu'ils n'en prennent pas s'ils ne sont pas capables d'en avoir.
Ça me paraît évident, mais c'est bien de le dire, oui, en effet.
On pourrait diminuer le prix de la puce électronique.
Justement, c'est intéressant, ça. À l'heure actuelle, on est obligé de faire pucer son animal ou de le faire tatouer.
Oui.
C'est ça, c'est-à-dire que quand on est propriétaire, on doit faire en sorte qu'on puisse retrouver le chien l'animal s'il est abandonné. Ouais. Du coup, ça coûte cher de faire poser une puce ?
C'est 69 euros.
D'accord.
Et un tatouage, c'est 66. C'est à peu près pareil.
D'accord. Donc, ça coûte très cher de faire en sorte qu'on retrouve le propriétaire de l'animal. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens, par exemple, peut pas, ne le fait pas. Et du coup, s'il abandonne son animal, on ne peut pas le retrouver.
Voilà.
Il y avait éventuellement d'autres choses. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des campagnes, par exemple, de sensibilisation à la télévision autour de l'abandon, etc.
Bah, nous, on trouve ça bien parce qu'on est contre l'abandon. Mais
oui.
Est-ce que les gens qui abandonnent leur animal, ils font vraiment attention ?
C'est pas faux. Mais du coup, il faut que le message y circule aussi pour que les gens aussi l'entendent.
Oui.
D'accord.
Après, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de trucs par rapport aux abandons et tout ça.
Est-ce que vous avez une campagne, une pub qui vous a marqué ces derniers temps là-dessus ? Tu parles des réseaux sociaux. Comment ça circule sur les réseaux sociaux, ce message ?
Bah, y a des pages.
C'est des pages
Facebook.
Et puis des vidéos. Enfin,
d'accord.
Après, je sais pas les noms des vidéos, mais...
D'accord. Des photos des animaux qui sont fait maltraiter, c'est horrible.
Souvent, oui, l'émotion, ça peut permettre de faire avancer les causes, c'est-à-dire de montrer des choses horribles. Ça peut permettre aussi aux gens de réfléchir un peu à la situation.
Bien de se renseigner avant de prendre un animal.
Sur son caractère, si vraiment il va correspondre à la famille ou non.
Eh bien, merci beaucoup les filles, c'était très très instructif.
Bah de rien.
Je vous propose là qu'on fasse une petite pause musicale. On va écouter un morceau de Don Diablo et ça s'appelle Cutting Shapes. Dancing is what to do, dancing's why they come you. Dancing's what clears my soul, dancing's what makes me whole. Dancing is what to do, dancing's why they come you. Dancing's what clears my soul, dancing's what makes me whole. Lycée Horticole de Blois, on continue sur la thématique autour de la maltraitance animale et on a deux nouveaux invités en plateau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors je reçois Hervé et Maëva. Alors de quoi vous allez nous parler maintenant là ? Qu'est-ce que vous avez préparé ?
On va vous parler de la SPA, donc ce que c'est, combien il y en a en France.
Les chiffres pour 2016.
Eh bien on vous écoute alors.
Donc tout d'abord, SPA, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des initiales. Donc SPA, ça veut dire Société Protectrice des Animaux. Et en fait, c'est des refuges qui accueillent tout type d'animaux, donc chiens, chats, même des nouveaux animaux de compagnie, donc lapins, même des moutons. Il y a à peu près 63 refuges en France, à peu près dans tous les recoins de la France. Je crois qu'il y en a même aussi dans les TOM, donc Martinique et tout ça. En ce qui concerne le salaire des employés, donc brut, c'est 1 460 €. Donc là, c'est le revenu brut. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les employés, avant d'être payés, donc avant de devenir employés, ils ont été bénévoles. Parce que forcément, il faut qu'ils connaissent le refuge, quoi, les animaux. Pour être sélectionnés, il faut qu'ils connaissent les animaux. Il faut qu'ils savent les soigner, parce qu'ils apportent les premiers soins, forcément. Il faudra aussi un certificat de capacité, sinon il n'y a pas besoin de formation quelconque. Les employés, eux, ils s'occupent d'entretenir la chenille, de donner à manger, de soigner les animaux. Et ensuite, aussi les papiers, et il faudrait qu'ils s'occupent d'accueillir les clients. et puis de les accompagner pour aller voir les chiens ou les chats, enfin les animaux qu'ils désirent. Pour promener les chiens, c'est souvent les bénévoles qui s'en occupent, parce que forcément les employés ont plus de travail que les bénévoles. La première SPA a été créée en 1845, puis elle a été reconnue en 1860.
Alors moi je vais vous parler des chiffres pour l'année 2016, du nombre d'abandons pour l'année 2016. Alors la SPA agit grâce à 162 000 donateurs fidèles, 23 000 adhérents, 580 salariés, 3 000 bénévoles, 4 inspecteurs et 1 000 délégués enquêteurs. Il y a 63 refuges et maisons de SPA partout en France pour accueillir les animaux et renseigner le grand public. 12 dispensaires pour soigner les animaux de propriétaires dépunis. Alors les chiffres pour 2016. 48 214 animaux ont été accueillis dans les refuges de l'ESPA. Donc il y a les divagations, donc les animaux qui ont été trouvés dans la rue. Il y a les
abandons.
Les abandons, animaux voilà, battus merci. Aussi.
Il y a 41 129 animaux qui ont été adoptés grâce à l'ESPA. 130 000 animaux ont bénéficié des soins de l'ESPA, dont 80 000 dont les dispensaires. 3 771 animaux perdus ont trouvé leur propriétaire grâce à l'ESPA. 650 animaux ont été sauvés d'élevage clandestin. 3000 enquêtes ont été menées pour prévenir la maltraitance animale. 467 investigations ont été réalisées pour notre cellule antitrafic pour démanteler les trafics organisés. 329 plaintes ont été déposées pour faire condamner les auteurs de maltraitance. 1267 dossiers d'aide financière ont été accordés à des propriétaires démunis ou à des associations protectrices des animaux. Alors l'ASPA, c'est un combat avec d'autres organisations. Alors l'ASPA se bat pour toutes sortes de causes. Il y a la corrida, l'abattage sans étourdissement, l'expérimentation animale, les cirques, la fourrure et toutes les formes de maltraitance.
Exactement, oui, toutes les formes de maltraitance envers les animaux. C'est intéressant comme sujet. Est-ce que vous, par exemple, vous avez été déjà rencontré des gens à l'ASPA ?
Moi, je suis bénévole dans une SPA.
Ah, super.
Depuis 2 ans, donc ça me donne l'occasion de faire ça au quotidien.
Quand tu es bénévole à l'SPA, qu'est-ce que tu fais concrètement ?
Alors moi, je promène les animaux, je m'occupe des animaux, je les chouchoute, je leur donne à manger et je suis utile à tout faire. Moi, quand je viens, je fais le maximum pour aider.
Quand tu dis les animaux, c'est particulièrement c'est des chiens,
alors
des chats ?
Alors moi, dans ma SPA, il n'y a que des chiens.
Il n'y a que des chiens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des animaux abandonnés qui arrivaient ou
Ah oui, c'est quasiment toutes les semaines. C'est toutes les semaines quasiment.
Toutes les semaines, d'accord. Concrètement, les animaux, ils sont dans quel état quand ils arrivent ?
Ils sont très mal, ils sont perdus, ils mangent pas, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font ici. Ils attendent des fois que leur maître vienne le chercher, mais en fait, il viendra jamais. Et puis malheureusement,
D'accord. Félicitations, bravo pour ce combat. Et est-ce que du coup, toi, ça t'intéresserait éventuellement d'aller plus loin ? Parce que tu parlais des employés de la SPA. Est-ce que toi, c'est une carrière qui t'intéresse, toi ?
Oui, ça pourrait m'intéresser.
D'accord. Et toi, du coup, Maëva, un petit peu, la SPA, tu connaissais avant de t'intéresser au sujet ?
Oui, j'ai été bénévole aussi pendant 1 an. Mais après, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps.
Oui, ça prend forcément, quand on est bénévole, on donne de son temps libre. Donc, il faut en avoir, quoi.
Moi, il y avait des chats et des chiens.
Juste préciser, du coup, quelle ESPA, c'était où ?
Alors moi, c'était la ESPA de Châteaudun dans le 28.
Et moi, c'est à Morey, dans le Loir-et-Cher.
Donc plutôt au nord d'ici, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter sur le sujet
Moi, j'ai...
Un petit message à faire passer ?
Faut mieux adopter un animal que l'acheter en animalerie, parce que au moins, on fait une bonne action en adoptant un animal, parce qu'il a déjà eu un vécu, et des fois, c'est plus facile de faire son éducation.
Et puis en même temps, je pense que du coup, ça évite aussi qu'il y ait une surpopulation.
Oui, voilà.
Ça permet aussi de s'occuper des animaux qui ont besoin d'aide, en fait, aussi.
Ça empêche un peu le commerce des animaux, parce que souvent, les animaux qu'on adopte dans les animaleries, souvent, ils finissent dans l'ESPA.
D'accord.
C'est vrai.
Ils prennent ça comme un simple cadeau, et puis après, quand ils n'en veulent plus, ils jettent.
Ah, ouais. Bon, super. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut envoyer un petit jingle ? Alors, les jingles ont été fabriqués aussi par les lycéens. Hein. Ils ont tout fait dans cette émission.
Vous êtes bien sur Animorti sur Studio ZEF.
De retour en plateau au lycée Horticole. Et là, je reçois donc Ilona, Alice et Quentin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous aviez choisi un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec la filière. D'ailleurs, vous êtes en quelle filière, vous ? D'accord.
Et en production horticole aussi.
Et donc, du coup, vous allez nous parler d'un sujet qui n'a rien à voir, puisque vous allez nous parler de...
L'histoire du cinéma.
Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous a intéressé dans ce sujet ?
Le cinéma en général.
Vous êtes fan de cinéma ?
Enfin, assez. J'aime bien y aller.
Vous avez préparé une petite chronique, c'est ça ?
Oui.
Alors, on vous écoute.
Donc on voulait parler du cinéma, donc il est né à la fin du 19e siècle. Dont de nombreux articles et livres, on peut lire encore aujourd'hui qu'il a été inventé par les frères Lumière. En fait, ils ont mis au point et fait construire une machine qui permettait d'enregistrer et de projeter en public des vues photographiques en mouvement. Et ils l'ont baptisé le cinématographe. C'est une invention qui en améliore d'autres, plus rudimentaires, et ça apparaît immédiatement comme un concurrent fatal au spectacle animé, donc préexistant, donc tout ce qui est le théâtre.
Pourtant, le théâtre existe encore, donc c'est que ça résiste pas si mal que ça.
Oui, oui, mais ça a été quand même un concurrent. Donc du coup, l'encyclopédie Larousse affirme « Ce retentissement mondial conduira de nombreux historiens à considérer le 28 décembre 1895 comme la date de naissance du cinéma ». Et elle évoque la projection que les Frères Lumière organisèrent à Paris pour le grand public.
Il s'agit d'une révolution dans le sens où le cinéma est le premier art né de la révolution industrielle. Elle n'a pas d'équivalent dans le passé, la photographie pouvant être considérée comme un substitut de la peinture. Vers 1905, 20% de la population américaine, 26 millions de personnes, se rendaient chaque semaine au cinéma. On compte entre 8000 et 10000 salles à bon marché. Les Nickelodeon. En Italie, pourtant, économiquement, retard, comptait 500 salles, dont 40 à Milan.
Les 6 films qui ont été les plus regardés dans l'histoire du cinéma sont Titanic en 1997, La soupe aux choux en 1981, le premier Star Wars en 1977, Avatar en 2009, X-Men en 2016 et Le Livre de la Jungle en 2016. Et les 6 films qui vont faire un carton dans quelques années sont Le Cercle Ring, 50 nuances plus sombres, Underworld, Blood War, Jurassic World 2, Le Labyrinthe et Fast and Furious 9.
Il y a beaucoup de séries dans ta liste là.
Oui.
Est-ce que du coup tu as déjà vu des films qui vont engendrer les séries? Genre par exemple Jurassic World et tout ça, là. C'est des films que vous avez regardés un petit peu?
Ouais.
Est-ce que vous aviez autre chose à dire sur le cinéma? Je peux peut-être vous poser des petites questions?
Oui.
Alors du coup tu m'as cité plein de films différents là, toi c'est quoi le genre de cinéma que tu aimes bien?
Moi c'est plutôt l'action.
Et t'as un film en particulier, toi, que tu aimes beaucoup?
Rambo.
Rambo, mais faut pas se moquer, hein, c'est un très très bon film. Hein. D'ailleurs, avec un très bon sous-texte, il dit beaucoup de choses, notamment sur les... Est-ce que tu sais quelque chose que tu peux dire à la radio?
Ah oui, non, mais c'est juste qu'à chaque fois que je lui demande de... s'il a des idées de film, il me dit toujours Rambo. Donc...
Tu l'as vu beaucoup?
Ouais.
Tu l'as vu combien de fois, tu sais?
3 ou 4 fois.
Ok. Et toi, Ilona, du coup, il y a un film en particulier qui t'a marqué? Il y a un film que tu aimes beaucoup?
Non, pas spécialement. Fin...
Et le dernier film que tu as vu, c'est quoi?
Underworld.
Underworld, donc un film d'action, un peu fantastique, avec des loups-garous, je crois?
Ouais.
Ouais. Et t'en as pensé quoi?
Bon, ça va.
Bon, ça va. Donc c'était pas non plus un chef-d'œuvre, quoi.
Non, mais... Enfin,
ça t'a plu. Super. Alice, toi, une découverte cinéma pour les auditeurs de Studio Zef?
Moi, je suis allée voir en dernier The Ring, je crois.
D'accord, donc là, c'est plutôt un film d'horreur. Alors, The Ring, je crois qu'il y en a plusieurs.
Oui.
C'est le film japonais ou c'est le film américain?
Américain.
Américain, d'accord. Oui. Le 2. Oui. Ils ont fait même fait une suite. Oui. Et alors, ça fait peur?
Oui, ça va. Mais,
ouais, ça va.
J'avais déjà vu le premier, du coup, bah, on est moins surpris, c'est assez répétitif.
C'est sûr, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup.
Bah, de rien.
De rien. Hein,
pour le petit travail que vous avez fait. Vous faites quoi, vous, aujourd'hui, du coup, au lycée?
On s'occupe de la vente aux serres et on a fait ce matin la vente de ce qu'on a fabriqué en art floral.
Alors, vous avez fabriqué des compositions. Tiens, c'est intéressant.
Oui.
Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour en parler? Vous avez fabriqué des bouquets de fleurs, c'est ça?
Oui.
Bouquets de fleurs, ça fait pas très, très stylé. Je trouve que c'est mieux
c'est
de
dire... C'est des compositions florales.
D'accord. Mais... Alors, il y avait quoi dans ces compositions?
Des fleurs.
Non, mais
je pense que vous savez la différence entre les différentes fleurs. Vous pouvez peut-être m'expliquer?
On a pris du beurre gras.
Il y avait des gerbera.
Des roses. Venturier.
C'est des compositions qui sont très variées. Vous faites ça avec vos professeurs.
Oui.
Et vous les vendez aujourd'hui. Alors, ça coûte combien? Vous les vendez combien, les compositions?
Alors, il y en a une qu'on a fait en art floral. Donc, c'était avec un fleuriste qui vient exprès pour nous de temps en temps au lycée pour l'art floral. On la vend à 15, il me semble. Une qu'on a fait avec notre professeur. Donc, avec une seule fleur, mais avec on a recyclé une bouteille en verre. Et du coup... Je sais pas combien elle est.
Alors, est-ce que vous en avez vendu quelques-unes ce matin quand même?
Quelques-unes ce matin, oui, réservées surtout parce que les gens, ils n'avaient pas encore leur argent sur eux et il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, je sais pas parce que moi, j'étais juste de 8h à 10h, donc on n'a pas vu grand monde passer.
Ok, la journée a commencé tôt. Et donc là, du coup, je vais vous laisser. Vous allez retourner où ?
Moi, au CER.
Au CER.
Pareil.
En art floral.
En art floral, ok. Ben, merci beaucoup.
Merci.
C'était, merci pour le petit travail que vous avez préparé pour la radio. Et puis, bon courage pour la suite de cette journée au lycée.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
On va continuer un petit peu sur la thématique, on va dire horticole, puisque là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec la classe de TCVPJ et horticulture. On va continuer avec la culture d'un autre type, l'horticulture. Je vous propose que l'on s'intéresse aux différents projets de la filière qui sont préparés par plusieurs groupes de cette classe depuis plusieurs semaines. Et on va commencer avec une interview qui a été enregistrée cette semaine, qui a été enregistrée par Antonin et Gloria, et dont le sujet, c'est l'érable. C'est parti, on écoute ça tout de suite.
Vous êtes bien sur Annie Morty ? C'est sur Studio Zef.
Pouvez-vous vous présenter ?
Eh bien, je m'appelle Claude-Henri Jérôme, je suis enseignant en technique horticole au lycée horticole de Blois.
Quels sont les différents types d'érables ?
Alors, les érables, en fait, c'est de la systématique, c'est de la classification. On peut les classer suivant différents critères, suivant leur origine géographique, suivant leur morphologie, suivant leurs exigences climatiques, on va dire même pédoclimatiques, c'est-à-dire le sol, en fait, les différents types de climat qu'ils exigent. On ne peut pas exiger, après, de planter des érables qui proviennent d'Asie de la même manière, comme en culture, du reste, que ceux qui proviennent en fait, d'Amérique ou d'Europe. Voilà, donc il y a différents axes, c'est quelque chose de très très vaste et on ne peut pas non plus, il faut que la question soit plus fermée en fait. Voilà.
Pourquoi aimez-vous les érables ?
Il y a différents intérêts. Le premier, c'est la diversité de feuillage. Au niveau des inflorescences, c'est également différent. C'est un des seuls arbres où vous avez des inflorescences de couleur verte qui peuvent être soit en ombelle, soit en corymbe. Donc différents intérêts, on va dire, botaniques. Et puis après, donc ils sont intéressants, pas forcément que par rapport au feuillage, mais il y en a qui sont avec des troncs dits à peau de serpent. Il y a de nombreux intérêts également vis-à-vis de leur coloration automnale. Puis pour moi, il y a un sacré challenge en fait, c'est que là où j'habite, j'ai un sol à terrain très calcaire. Donc en travaillant sur différents ouvrages, moi, mon challenge, c'est de les acclimater et surtout de voir ceux qui peuvent vraiment pousser en terrain calcaire. Parce qu'en fait, il y a des ouvrages. Et comme j'enseigne la reconnaissance de végétaux également, eh bien, on n'est jamais trop servi que par sa partie expérientielle. Or, en fait, je suis parti avec 150 érables différents. Si je suivais les ouvrages, je devrais en avoir 50% de morts, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Par contre, c'est sûr que je distingue au niveau de la pousse différentes choses. Ils ne vont pas faire des pousses de 80 mètres comme marqué dans les ouvrages, mais peut-être la moitié. Donc il y a quand même un impact. Et d'autre part aussi, le challenge, c'est de pouvoir les cultiver, comme il y a différents systèmes de culture en horticulture, système pleine terre ou hors sol. Moi, ceux qui ne peuvent vraiment pas s'acclimater en pleine terre, eh bien, je les cultive en hors sol, dans des bacs. Et je travaille également la taille sur tous ceux qui sont d'origine japonaise, par exemple. À mon avis, avec le chêne, le genre Carcus, ce sont les deux genres, le genre Acer, Acer et puis Carcus, vraiment qui proposent le maximum d'attraits qui sont tellement riches que toute une vie ne suffit pas. On plante, c'est pas pour soi, mais c'est pour les générations qui suivent.
Pourquoi y a-t-il des érables au lycée et à quoi servent-ils ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des érables du côté de l'arboretum, du mini-arboretum que l'on a. Donc, ils correspondent en fait à la liste que les apprenants ici ont sur le site. Il y en a également disposés près du parking, qui eux ont un intérêt, je dirais comme tout à l'heure, l'intérêt c'est le feuillage, la coloration du feuillage automnal, mais également qui font partie donc de la liste de reconnaissance de végétaux. Donc ce qui est recherché surtout, c'est que en fait, vous appreniez à les connaître et ils sont disposés d'une manière à ce que vous ne pouvez pas, surtout ceux du parking, vous ne pouvez pas les manquer.
Est-ce qu'il y a une variété d'érables que vous préférez ?
Alors effectivement, il y en a une, d'ailleurs c'est un sacré challenge pour la multiplier, la faire pousser. Il s'agit de l'Acer griseum. L'Acer griseum en fait a une écorce décorative un peu particulière. Il est comme le platane, il a tendance à se desquamer, à perdre cette écorce. Et il faut savoir qu'il est à 99% stérile au niveau de ses graines. Donc c'est très difficile de le multiplier par graines et souvent donc, on le multiplie par greffage. un greffage que vous pouvez venir découvrir d'ailleurs dans les serres ce jour de porte ouverte. Voilà.
Merci.
Animorti, la rubrique de nos envies.